salvation of Barbados.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon estival de la société européenne. Faire du tourisme lorsqu'on est handicapé relève parfois du défi impossible, sauf dans certaines villes qui apportent un soin tout particulier à l'accessibilité. Reportage à Avila en Espagne et correspondance de Stockholm en Suède. Et puis en Macédoine où les handicapés sont encore rejetés, c'est un unijambiste globetrotteur qui anime des camps de vacances pour handicapés. Il trouve là un havre de repos loin des préjugés. Schwarzy en Styrie, l'Autriche vient d'inaugurer un musée à la gloire d'Arnold Schwarzenegger dans sa ville natale. Et puis une gloire en devenir, la lituanienne Alina Orlova, héroïne de notre chronique musique du jour. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville espagnole d'Avila vient de décrocher un titre qui l'honore tout autant, celui de ville européenne de l'accessibilité, décerné par la Commission européenne pour l'année 2011. En concurrence avec Barcelone, avec Turku en Finlande ou encore Cologne en Allemagne, la ville médiévale a remporté le titre pour avoir su allier patrimoine et accessibilité. L'originalité d'Avila, c'est qu'en plus d'être une ville historique, elle se situe sur un terrain très accidenté. Alors depuis 2005, toutes les ruelles et tous les monuments ont été aménagés pour rendre le passage aisé pour tout le monde. Et comme a pu le constater Emmanuel Stills, ces aménagements ont vraiment changé la vie des habitants.
Cela fait 15 ans que Fernando Estrella a perdu la vue. À l'époque, se déplacer dans les rues médiévales d'Avila relevait d'une mission impossible pour un aveugle. Aujourd'hui, il se promène volontiers seul dans sa ville depuis que les obstacles ont été atténués.
Je vois grâce à ma canne, quand j'arrive ici, le trottoir change, alors je sais que je suis à un passage pour piétons. Je peux traverser la rue seule, ma canne m'emmène. C'est grâce aux travaux faits par la mairie à tous les passages pour piétons. Les pavés sont différents et je m'en rends compte avec la canne. Avant, je ne sortais pas seul. Pourtant, je connais la ville parce que j'ai toujours habité ici. Maintenant, avec ces aménagements, j'ose sortir seul. Je suis capable de m'orienter.
Les rues escarpées d'Avila n'ont pas perdu leur caractère historique, même si leur physionomie a été adoucie pour les rendre plus praticables. Fini les petits pavés brinque-ballants sur lesquels tout le monde trébuchait, fini les trottoirs étriqués que de hautes bordures rendaient inaccessibles. Aujourd'hui, des pavés lisses et bien cimentés permettent le passage des chaises roulantes, et là où celles-ci butaient autrefois sur des escaliers, des rampes d'accès ont été installées. Ces aménagements, et bien d'autres encore, ont valu à Avila le titre de ville européenne de l'accessibilité pour 2011, le premier prix du genre des cernée par la Commission européenne. Noelia Cuenca est la conseillère municipale déléguée à l'accessibilité, la première à occuper ce type de fonction en Espagne.
Il faut concevoir l'accessibilité comme un avantage pour tous les citoyens, pas seulement pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Nous l'appliquons dans toutes les sphères municipales, nous travaillons de manière transversale. Tous, à un moment donné de notre vie, nous dépendons de l'accessibilité des lieux, pas seulement si on se casse une jambe, mais aussi lorsqu'on a un chariot de course ou une valise ou une poussette pour bébé. Ce sont des avantages dont nous bénéficions tous et qui nous facilitent la vie.
À la mairie d'Avila, tous les projets de la culture à l'urbanisme sont soumis à l'exigence d'accessibilité. Un effort particulier a été fait dans le domaine du tourisme, moteur de l'économie locale. La ville, classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, a accompli des prouesses pour faire connaître ses richesses aux visiteurs de toutes conditions. Un autre habitant, Angel de Propios, se lance à l'assaut de la célèbre muraille d'Avila. Dans sa chaise roulante, il peut se promener sur les hauteurs de ce vestige millénaire.
Voilà, nous sommes en haut. La vue est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre ville comme Avila. N'importe quelle ville située sur du terrain plat peut facilement améliorer son accessibilité. Mais ce qui a été fait à Avila, ça a plus de mérite. Une ville avec de telles pentes et de tels pavés, la rendre aussi accessible, c'est une prouesse. Et malgré toutes ces difficultés, moi, je peux facilement passer par près de 90% des rues. Et ça, c'est un triomphe pour la ville d'Avila.
Près de la muraille, une borne interactive guide le visiteur en langue des signes si nécessaire. Un peu partout dans la ville, on retrouve ces bornes ainsi que des panneaux explicatifs en braille. À l'office du tourisme d'Avila, on prête gratuitement des chaises roulantes et une maquette de la vieille ville de nos aveugles, une idée du panorama. Un guide répertoriant tous les lieux d'intérêt, musées, hôtels et restaurants, définit leur degré d'accessibilité.
C'est beaucoup plus facile de passer qu'avant, ils ont amélioré les rues. C'est vrai qu'il y a toujours les pavés, mais ça a des avantages, regardez, la petite s'endort grâce aux pavés.
Comme cette femme qui ne doit plus faire des cabrioles pour pousser le landau de son bébé, tous les habitants d'Avila sont fiers de dire qu'il est désormais plus agréable de se balader dans les rues de leur ville.
Kaplanor, vers la Suède, où près d'un demi-million de personnes utilisent soit un fauteuil roulant, soit un déambulateur. Stockholm est aujourd'hui l'une des capitales les plus accessibles du monde, même si des progrès restent à faire, Benoît Derrier.
À première vue, la capitale suédoise est une ville particulièrement accessible aux personnes en fauteuil. Pas un escalier sans rampe d'accès, pas une station de métro sans ascenseur. Les arrêts de bus sont en général aménagés et surélevés, et tous les bâtiments publics, administrations ou commerces, à de très rares exceptions près, sont équipés d'ascenseurs ou de monte-charge, même pour gravir seulement quelques marches. Les nombreux bateaux qui desservent les différentes îles sur lesquelles est bâti Stockholm sont eux aussi munis des rampes d'accès adéquates. Une personne en fauteuil peut donc s'offrir une virée dans l'archipel de manière totalement autonome. En ville, caniveaux et bordures de trottoirs sont dessinés en pente douce, et comme dans toutes les capitales d'Europe du Nord, on a aussi pensé aux déficients visuels. Les passages piétons sont munis de signaux sonores dont le tempo accélère quand le feu est vert. Les personnes malentendantes ne sont pas oubliées, elles peuvent lire plus facilement sur les lèvres grâce à un éclairage dont la température de couleur favorise la reconnaissance des détails, car l'hiver, la nuit tombe en plein après-midi. Tous ces efforts ont été entrepris à la fin des années 90 et font aujourd'hui de Stockholm l'une des capitales les plus accessibles au monde. L'équivalent de 10 millions d'euros a été dépensé par la ville chaque année durant la dernière décennie. Mais si transports, bâtiments publics et sites touristiques sont très accessibles, il reste en revanche beaucoup à faire dans les vieux quartiers historiques où de petits obstacles peuvent causer de grands problèmes. Beaucoup de commerces sont encore séparés de la rue par quelques marches impossibles à franchir en fauteuil ou en déambulateur. Bien des villes espagnoles ou italiennes font mieux sur ce point.
En Macédoine, les handicapés continuent d'être victimes de nombreux préjugés et leurs besoins sont loin d'être pris en compte. Sans surprise, c'est donc un handicapé qui est à l'origine d'une des rares initiatives en leur faveur, un camp d'été qui accueille des adultes et adolescents pour les convaincre que leur handicap n'est pas un obstacle à une activité physique ou sportive. Dejan Zafirov, l'organisateur, en est un exemple vivant. Cet unijambiste vient de boucler un voyage de 4000 km à vélo en Chine. Béatrice André est allée passer quelques heures dans ce camp unique en Macédoine.
Ce soir, on allume un feu des bois. On est près de la plage à 10 mètres. Et c'est une nuit calme. Et on attend des enfants pour venir ici. C'est la troisième fois qu'on fait ça. Et je crois que c'est le rituel le plus préféré des enfants.
C'est autour d'un feu de bois au bord du lac d'Ohrid, dans le sud de la Macédoine, que les enfants et animateurs du camp sportif Gaïa aiment se retrouver. C'est un moment de détente après une journée à faire du sport et découvrir la ville, à parler du handicap et de la façon de le gérer au quotidien. Car les 11 enfants et adolescents présents sont tous affectés par un handicap, qu'ils soient non-voyants, sourds et muets, en béquille ou en fauteuil roulant. Comme Ilcho, installé près du feu.
Je suis Ilko Dimovski, j'ai 21 ans. Je vais rentrer dans ce camp avec beaucoup de nouvelles idées. Par exemple, j'ai appris à passer du lit au fauteuil seul et vice-versa. À Vélès, là où j'habite, je ne peux rien faire sans un accompagnant qui m'aide à sortir, parce que rien n'est accessible au fauteuil roulant. Des camps comme ça, on n'en organise jamais ici. C'est la première fois cette année que je viens. seul, à un camp sans ma famille, sans accompagnant.
L'initiateur de ce camp, c'est Dejan Zafirov, un Macédonien de 33 ans. Il y a 5 ans, il a perdu sa jambe droite dans un accident, amputé au-dessus du genou. Depuis, il porte une prothèse et a réappris à faire du sport. Il a gardé sa vieille passion, le cyclisme, et enchaîne les défis sportifs, comme son voyage en Chine à vélo sur 4000 km, possible grâce à sa prothèse. Il souhaite montrer aux enfants du camp qu'il est possible d'être indépendant et de faire du sport par des activités pratiques. Des exercices dès le matin, des ateliers sur le handicap, mais aussi du football ou de la natation. Aujourd'hui, tout le monde réclame la baignade prévue pour l'après-midi. Emma est aveugle et se prépare à suivre les autres enfants pour s'amuser dans les eaux du lac d'Orlid.
Je sais nager, oui. Quand j'étais petite, j'avais très peur du sable. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés pour m'orienter en permanence. Mais j'aime bien, oui.
Emma, tu vas te baigner ?
Oui.
Vassil Fotinovski accompagne les enfants dans l'eau. Il est professeur de macédonien pour les malentendants et suit deux jeunes sourds et muets sur le camp. Ravi de les voir faire connaissance avec d'autres enfants et de s'entraider, il voit dans ce camp un apprentissage de la tolérance. Une tolérance qui, à l'inverse, est encore loin d'être acquise par la société macédonienne vis-à-vis du handicap physique.
Avec les enfants, nous avons échangé pendant les ateliers sur le fait que malheureusement, même au sein des familles, on abandonne les enfants handicapés dans notre pays. Un grand nombre d'entre eux sont rejetés des familles. Leurs parents refusent de les voir.
Ce qui compte dans un tel contexte est d'inciter les enfants à s'affirmer pour gagner leur autonomie et oser se lancer dans les activités qui leur plaisent. C'est le cheval de bataille de Dejan Zafirov.
Certaines personnes, c'était la première fois qu'ils nagent dans un lac toute seule, sans assistant direct. Alors c'était une expérience de liberté pour eux. Et ça marchait. On avait beaucoup d'exemples positifs qui, au début, les enfants sont demandés toutes les choses pour laver les dents, pour s'habiller, demander tout le temps d'être. Mais après, le dernier jour, ils ont fait plupart des choses toutes seules. Il avait beaucoup d'émotions et je crois qu'on lui a aidé pour avoir plus de confiance en soi.
Stimulé par le retour gratifiant des enfants, la quinzaine de volontaires de l'équipe organisatrice prévoit un nouveau séjour pour l'été prochain avec les mêmes participants qui souhaitent tous revenir. Dans les cartons, on envisage aussi d'élargir l'initiative à un ou deux nouveaux groupes d'enfants. Dejan, lui, est déjà sur le départ. Il prévoit de partir à l'automne aux États-Unis pour joindre à vélo New York à San Francisco. 5000 km de plus. Il a promis à ses sponsors d'en parcourir 20 000 en 4 ans.
Sortir.
L'Autriche en pince pour Arnold Schwarzenegger. Les déboires personnels de la star américaine, ancien gouverneur de l'État de Californie, n'ont pas découragé les édiles locaux de sa ville natale, dans la région bucolique de Styrie, qui vient d'ouvrir un musée à la gloire de la star, Blaise Gauquelin.
Willkommen im Arnold Schwarzenegger Museum.
L'ancien gouverneur de Californie vous accueille lui-même par vidéo interposée dans le musée qui est consacré à sa vie. En fait, c'est la maison familiale des Schwarzenegger qui a été transformée par la municipalité en musée. Car peu de gens le savent, mais la star américaine est née en Autriche il y a 64 ans dans ce petit village appelé Thal, qui est situé dans le sud, près de la ville de Graz. Le musée Schwarzenegger, c'est donc en fait une jolie bâtisse typiquement autrichienne avec ses murs jaune pâle et sa porte vert bouteille. À l'intérieur, on trouve un millier d'objets et de photos qui retracent la carrière de Schwarzi, comme les Autrichiens appellent le célèbre enfant du pays, un homme qui ici personnifie le rêve américain. Ne cherchez pas de second degré, l'ambiance est plutôt occulte de la personnalité, à l'image de cette statue de bronze de 3 mètres qui doit bientôt être érigée dans le jardin. Les habitants de la région sont très fiers d'avoir été les témoins de l'ascension d'Arnold Schwarzenegger, ici on dit d'ailleurs Schwarzenegger, parti très bientôt courir les podiums des concours de culturisme avant de séduire le tout Hollywood, puis les électeurs de la côte ouest des États-Unis. Les haltères avec lesquels le jeune garçon s'est entraîné pour la première fois traînent encore par terre. Vous pouvez acheter un timbre spécialement émis à l'effigie de l'acteur de Terminator ou encore écouter le disque d'un crooner local à la gloire du héros dans une ambiance modeste, sans doute très éloignée de celle où évolue désormais l'Autrichien le plus célèbre de l'Amérique.
La proposition du jour du culturiste de la pop, Vincent Teval, nous emmène en Lituanie.
On a découvert la lituanienne Alina Orlova en 2009 à la faveur d'un premier album très singulier. Déclinaison gracieuse de miniatures sophistiquées ou agilité vocale et trouvailles sonores enchantées en permanence. Alina Orlova est née en 1988 à Visaginas, petite ville au nord-est de la Lituanie, où elle apprend le piano très jeune et peaufine rapidement ses propres compositions. Pour l'enregistrement de son premier album, elle s'était entourée de quelques musiciens qui apposaient des petites touches baroques de violon, percussion ou accordéon au fil de chansons interprétées essentiellement au piano. Avec Mutabor, un deuxième album très ambitieux, Alina Orlova reste fidèle à un style déjà très marqué, mais élargit grandement la palette des instruments et étoffe les arrangements avec parfois des ambiances vaporeuses qui évoquent la pop des années 80. Mais ce n'est pas le seul chemin qu'emprunte Alina Orlova sur ce disque dense et éclectique, avec des chansons toujours interprétées en lituanien ou en anglais, et généreuses en étrangeté, surprise et tour de magie. D'ailleurs, Mutabor pourrait se traduire par abracadabra.
Extrait de Mutabor, dernier album de la lituanienne Alina Orlova dans Accent d'Europe, une émission réalisée par Laura Pinto avec le soutien du programme Euranet. On reste ensemble sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.